Il y a peu de temps, et même très récemment, il y a un livre qui est sorti sur une dame centenaire, originaire d'Angers. Elle s'appelle Noëlla Rouget. Elle est née le jour de Noël, c'est pour ça qu'elle s'appelle Noëlla, en 1919. Et en 1939, elle s'est engagée dans la résistance, elle avait 20 ans. Et malheureusement, elle a été prise et détenue en France tout d'abord, puis emmenée dans le camp de concentration de Ravensbrück. Elle y restera 18 mois. Elle est une des dernières témoins de cette période de l'histoire qui a façonné notre pays, et elle a pu se remettre à vivre après la guerre en Suisse, ayant rencontré son mari dans ce pays. Et ce qui la caractérise, c'est un geste qui n'est pas du tout naturel et qui a même été mal compris par beaucoup de personnes. Elle a voulu pardonner à celui qui est venu l'arrêter. Celui qui est venu la chercher chez elle, qui a ordonné qu'elle soit déportée, celui qui a ordonné aussi l'assassinat de son fiancé. Cet homme a été retrouvé des années après la guerre parce qu'il s'était caché et il a été condamné à la peine de mort parce qu'en France, il y avait la peine de mort à cette époque-là. C'était pas, il n'y a pas si longtemps finalement. Mais pour Noëlla, tuer un homme, c'était encore continuer à détruire l'humain, c'était encore se faire complice de ce qu'elle avait vécu, elle, dans les camps. Tuer un homme, cela ne ferait pas ressusciter les millions de morts causés par les nazis, cela n'effacerait pas l'horreur de la guerre et la volonté d'éradiquer le peuple juif. Et elle a demandé sa grâce au général de Gaulle, et elle l'a obtenue. Quand j'ai lu cette histoire, et en fait cette histoire, j'en ai entendu parler depuis un moment parce que ce sont mes cousins qui l'ont écrite. Quand j'ai lu cette histoire, eh bien, j'ai pensé qu'elle était une belle illustration de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le bon grain, c'est ce qui nourrit la vie. Dans la parabole, c'est du blé qui sert à faire du pain, le pain qui est la nourriture de base de beaucoup de peuples dans le monde. Et l'ivraie, la mauvaise herbe, eh bien, c'est une plante qui peut envahir un champ de blé ou n'importe quel autre champ, et il peut être toxique. Alors, il est assez intéressant de regarder le mot grec de ce mot contraduit par ivraie, et on découvre que c'est le mot en grec zizania. Alors bien sûr, vous y pensez, ça a donné le mot en français la zizanie. La zizanie, eh bien, c'est le désordre, c'est la division, la discorde. Et vous pensez peut-être aussi à une expression qui est passée dans le langage courant, semer la zizanie. Alors oui, même au cœur de la plus grande machine à tuer l'humain, des femmes, des hommes ont résisté à cet bouleversement de multiples manières, chacun à sa mesure et à sa portée. Noëlla Rouget a pu survivre dans le camp grâce à la solidarité extraordinaire des femmes qui étaient avec elle. Elles se sont soutenues à tous les moments de leur épreuve. Elles ont tissé du lien au nom de leur humanité commune. Elles ont réussi à survivre. La zizanie, au contraire, cherche à briser les liens. Elle isole. Alors, la semaine dernière, nous avons vu qu'une parabole vient croiser notre monde humain pour expliquer le monde de Dieu. Nous avons vu que le royaume, ou bien le règne, nous concerne ici et maintenant et que la personne de Jésus-Christ en est le croisement. Alors, chaque parabole aborde une question particulière, mais comme un projecteur sur une question particulière, et celle d'aujourd'hui parle du mal et de son existence dans le monde. C'est aussi une des deux paraboles pour lesquelles Jésus donne une explication. Et le monde de Dieu, oui, prend en compte le mal dans notre monde. Mais il nous guide vers une attitude désarmante. Le mal est illustré par l'ivraie. La plante est ivraie quand elle sort de terre. Avant, on ne sait pas trop. Mais quand on voit, par exemple, une personne semer la discorde, on peut considérer qu'elle se met au service de l'ennemi de Dieu et non au service de Dieu. Jésus va dire dans un chapitre un peu plus haut, on reconnaît un arbre à ses fruits. Bien souvent, on voudrait savoir l'origine du mal. Parfois, cela vient des humains, parfois, cela vient, par exemple, d'une catastrophe naturelle. Pourquoi tel ou tel malheur résonne depuis la nuit des temps? Et finalement, Jésus ne répond pas à la question des disciples qui lui demandent d'où est-ce que cette plante vient, d'où vient ce mal? Le maître répond dans la parabole, c'est un ennemi qui a fait cela. Ensuite, dans l'explication, il appelle le diable, l'ennemi, ça n'apporte finalement pas grand-chose à son origine. Mais en tout cas, le diable peut être vu comme l'accusateur, et on ne le connaît que par les conséquences finalement. Celui qui jette en travers, celui qui sème le trouble, celui qui divise, celui qui sème la zizanie. On ne le reconnaît qu'à travers ses conséquences, comme la plante qui pousse et qu'on reconnaît au moment où elle sort. Le maître ne dit pas « voilà d'où vient l'ennemi, voilà d'où vient le mal ». Il dit juste qu'il existe des comportements qui vont contre la volonté de Dieu, des comportements qui se mettent en travers de ce qui fait vivre l'humain. L'ivraie représente les fils du malin, les sujets du mal. Alors regardons la première partie de la parabole. Il y a une attitude fondamentale que Jésus nous demande et qui finalement nuance le jugement qui nous paraît extrêmement sévère, en mettant le jugement donc dans la deuxième partie de la parabole, l'explication, avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et nous savons bien que cette façon binaire de voir les choses est rassurante, mais ne dit rien de la complexité du monde dans lequel se mêlent les bonnes choses et les mauvaises, et même en nous se mêlent les bonnes choses et les mauvaises. Mais il faut un jugement, et le jugement final montre que Dieu ne se résout pas à l'existence du mal dans notre monde. Mais c'est complexe, et c'est plus complexe que cette explication de la parabole. En fait, le jugement a comme fonction d'être pédagogique et nous donne évidemment envie d'être du bon côté. Alors le dialogue entre le maître et les serviteurs continue. « Veux-tu que nous allions la ramasser ?»« Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. » Nous n'avons donc pas à déraciner le mal. Parce que nous pouvons nous tromper. Et cela éclaire cet ordre donné dans le livre de la Genèse qui nous dit « Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » On peut donc se tromper. Et c'est justement avec le Christ qu'on en a l'exemple le plus parlant. Ceux qui ont crucifié Jésus étaient pleins de bonnes intentions. C'étaient des religieux parfaits. Ils voulaient punir la transgression que Jésus faisait de la loi religieuse juive. Ils voulaient montrer aux Romains leur bonne volonté en mettant à mort quelqu'un qui se prenait pour un roi. Si on veut arracher le mal de notre monde, on peut se tromper. Dieu seul connaît les cœurs, l'entremêlement du bien et du mal étant chacun de nous. Dieu seul connaît ce qui nous fait mal, et le mal que nous commettons. Même Jésus sur la croix a pu dire « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est sans doute pour cela que le pardon est au cœur du message de Jésus, car on peut toujours se tromper dans nos évaluations du bien et du mal. Le pardon, lui, ne se trompe jamais. Le pardon, aussi scandaleux qu'il soit, nous permet d'être dans une position juste, non pas vis-à-vis des valeurs de la société, mais vis-à-vis de Dieu. Cette parabole nous interroge sur notre façon de considérer le mal et ce qui nous fait mal. Nous subissons le mal dans nos vies à différentes échelles, mais nous sommes appelés à vivre dans ce monde où ce qui fait du bien s'entremêle avec ce qui fait du mal. Et nous avons tous à nous poser la question, finalement, que veut dire être bon grain? Quelle est ma responsabilité? Que veut dire renoncer à arracher le mal? Et puis, comment rester bon grain à côté de celui qui sème la zizanie? Celui qui met la division. Comment accorder de l'attention au blé et non pas accorder de l'attention à ce qui veut détruire? Parce que là, on est souvent attiré par ce qui ne va pas. Et pourtant, on nous demande d'accorder plus d'attention à ce qui est bon. Qu'est-ce qui est porteur de vie? Qu'est-ce qui va nourrir ma vie et la vie de l'autre? Comment Jésus s'est-il comporté au milieu de ceux qui voulaient le piéger? Il s'est protégé tant que ce n'était pas son heure. A-t-il pour autant arrêté de parler de lumière, d'espérance? A-t-il arrêté de faire tout le bien qu'il pouvait en guérissant, en remettant debout, en donnant à un avenir? A-t-il arrêté d'aimer? Nous sommes chacun et chacune le maillon d'une chaîne humaine malmenée dans les hauts et les bas de notre vie. Et les temps du royaume sont ces moments, parfois des fulgurances, où la présence de Dieu se révèle en nous. Soit parce que nous avons été conscients de cette présence, soit parce que nos gestes et nos paroles réconcilient, pardonnent, remettent du lien là où il n'y en a plus. Alors on peut dire que le royaume est là parmi nous. Cela ne dépend pas de l'environnement extérieur, mais plutôt de la victoire de ces mises en lien. Ne pensez-vous pas que la somme de tous les gestes de bonté, de solidarité, est bien plus importante que les actions qui cherchent à détruire? Évidemment, on ne les voit pas. Notre attention est attirée vers ce qui fait du bruit, vers le scandale, vers ce qui fait mal. Et pourtant, il y a quand même des médias qui vont relayer des bonnes nouvelles et des belles entreprises. Cette somme du bon l'emporte sur le mauvais. Sinon, la terre aurait arrêté de tourner depuis longtemps. Je vous cite l'écrivaine Christiane Singer. Le monde ne tient debout que par la conspiration de l'amour. Si la terre tourne, c'est grâce à ces milliers de gestes d'amour que font des milliers d'hommes et de femmes inconnus qui renouvellent chaque matin le pacte entre la terre et le ciel, malgré tout. Cet amour nous tient. Le mouvement du royaume ne nous laisse pas seuls. Jésus-Christ en est le cœur et chacun, chacune peut rester lié à lui. C'est même indispensable pour notre foi, car l'ennemi ne cherche qu'une chose, c'est à nous séparer du Christ, à nous séparer de Dieu. Alors résistons à cet ennemi et continuons à aimer. Aimer Dieu et notre prochain. Et cette toile, tissée de tous les liens, recouvrira la terre de son amour. Amen. Thank you.